On était donc au Mali, en plein coup d'État, quelques jours après le coup d'État, le 22 mars 2012. Et nous sommes maintenant en juillet, et la situation au nord s'est considérablement dégradée. Et nous avons au téléphone aujourd'hui Yvan Guichawa. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université East Anglia en Angleterre et on vous avait reçu déjà dans cette émission en décembre 2010 pour parler des mouvements rebelles Touareg au Niger. Alors aujourd'hui, la situation au nord du Mali est actuellement, bon, elle est très très complexe parce qu'il y a plusieurs mouvements qui occupent le nord. On a vu qu'il y avait le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, mais aussi ACMI en Sardine. Donc c'est une situation très complexe. Mais pour commencer, le premier mouvement qui a déclenché une offensive en début d'année, c'est quand même le mouvement de rébellion Touareg, le MNLA, qui demande son indépendance, enfin, qui demande l'indépendance, pardon, d'un territoire. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a des rébellions Touareg au Mali et même plus globalement au Sahel, mais est-ce que vous êtes surpris de la résurgence de la rébellion Touareg aujourd'hui?
Alors, si on s'en tient uniquement au MNLA, il n'y a pas grand-chose de surprenant dans le retour d'un mouvement rebelle. La nouveauté, c'est effectivement la multiplication des acteurs islamistes et leur montée en puissance, même si cette montée en puissance-là a des causes historiques aussi. Mais pour ce qui concerne le MNLA en tant que tel, il y avait de nombreux signes avant-coureurs d'un retour de la rébellion déjà depuis 2010 au moins, si ce n'est avant. Et on a beaucoup pointé du doigt la crise libyenne comme étant la cause du retour de cette rébellion. C'est pas tout à fait vrai. La crise libyenne a été une sorte de catalyseur de la résurgence de la rébellion, mais n'est en aucun cas la cause du retour des rebelles au nord du Mali. La cause, ou plutôt les causes du retour de la rébellion au nord du Mali sont à chercher au Mali avant tout.
Alors quelles sont-elles justement? Parce qu'effectivement on a beaucoup dit que c'était parce qu'il y avait la chute de Kadhafi avec toutes ces armes qui ont déferlé au nord. Alors c'est quoi les causes plus profondes?
Alors juste pour revenir rapidement sur l'affaire de la crise libyenne, effectivement le fait que des armes et puis entrer au Mali a accéléré et renforcé l'enthousiasme de ceux qui avaient déjà derrière la tête un projet rebelle. Donc j'exclus pas totalement de l'équation l'affaire libyenne, mais encore une fois c'est un facteur qui a précipité la crise mais qui n'a pas causé. Et c'est un facteur aussi qui a affecté la technologie, qui a constitué une sorte de choc technologique. Les armes que les rebelles ont eu à leur disposition leur ont permis d'emporter une victoire très 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 rapide et peut-être à laquelle ils ne s'attendaient peut-être pas même dans d'aussi brefs délais. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu là-dessus plus tard. Mais pour répondre à votre question relative aux causes, disons, plus profondes et plus exclusivement maliennes du retour de la rébellion. Bon, on peut citer la manière dont gérait le Nord, la manière dont le Nord était géré par le régime du président Amadou Toumani Touré, ATT, qui causait ou qui perpétuait un petit peu le ressentiment des populations du Nord et puis de leurs élites Touareg notamment. Et cette gestion consistait en l'utilisation ou l'instrumentalisation de certaines divisions sans fournir aux populations les besoins ou sans satisfaire les besoins en développement des populations. Sachant que ces besoins en développement avaient déjà été exprimés à l'occasion des rébellions précédentes. Donc grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que les promesses des précédents accords de paix n'ont pas été satisfaites. Et pour maintenir l'ordre malgré tout, des stratégies de manipulation politique un petit peu compliquées ont été mises en œuvre. Et ces stratégies s'appuyaient sur certaines élites Touareg qui étaient loyales au gouvernement d'ATT et qui servait, oui, effectivement, d'instrument de contrôle par le régime de l'ordre au nord. Bon, je ne sais pas si on peut revenir chronologiquement dans les détails, mais il y a un événement ou une période qui a été finalement assez critique et qu'il est utile d'avoir en tête pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est la période de 2006. Donc dans les années 90, il y a eu un grand mouvement rebelle qui a donné lieu à des accords de paix, des accords de paix qui étaient assez complets, mais qui n'ont pas été, dont les promesses n'ont pas été satisfaites. En 2006, il y a eu un retour de la rébellion qui exprimait justement l'insatisfaction devant l'absence de développement au nord.
Les promesses, c'était le développement du nord, mais aussi une meilleure place, c'est ça, accordée pour les élites.
Il y avait des volets politiques et des volets économiques. Les volets politiques, c'était la décentralisation, c'était une meilleure reconnaissance des populations du Nord dans les instances politiques nationales. Les volets économiques, c'était des projets de développement. Puis il y avait un volet plus strictement sécuritaire qui était l'intégration dans les forces de sécurité maliennes de Touareg, en l'occurrence. Bon, aucun de ces trois volets n'a fait l'objet de... n'a été poussé à bout. Donc en 2006, il y a une sorte de première montée de la tension autour de l'insatisfaction liée à la non-application de ces accords-là. Et la réponse de l'État, ça a été une réponse très très ambiguë. C'est-à-dire, on a signé à la va-vite de nouveaux accords. En s'appuyant sur des gens au nord qui étaient d'accord pour le faire, et parmi eux il y avait un certain Iyad Arali dont on reparle aujourd'hui, mais ces accords n'ont pas fait le consensus au sein des rebelles. Et il y a un homme, Ibrahim Bahanga, qui a refusé de rendre les armes et qui est devenu un petit peu incontrôlable pour les autorités maliennes et est devenu un vrai problème sécuritaire pour les autorités maliennes parce que voilà, il prenait en otage des soldats, il allait taper sur des convois de trafiquants de drogue dont les barons pouvaient avoir quelques connexions avec le pouvoir. Bon, cet homme-là, Ibrahim Bahanga, causait beaucoup de soucis au régime d'ATT, et la réponse qui a été donnée à l'insécurité ou au désordre causé par Ibrahim Bahanga, ça a été de constituer ou de financer des milices. Des milices formées de combattants originaires du Nord, mais restés loyaux à Bamako. Ces milices, il y en a eu deux. Il y a eu une milice de la tribu Imrad, qui est un sous-groupe Touareg, qui était dirigé par El Hadji Gamou, qui est devenu un colonel dans l'armée. Et il y a une deuxième milice, une milice arabe de la région de Gao, notamment, et qui était dirigée par un autre colonel qui s'appelait le colonel Oulmeidou. Et ces deux milices-là ont été les instruments du pouvoir pour rétablir l'ordre dans le nord. Et donc voilà. On voit bien que la réponse de l'État, ça n'a pas été de construire un État fonctionnel, ça a été d'utiliser un petit peu les divisions internes des populations du Nord pour mieux régner, pour assurer un semblant d'ordre. Et ces milices-là ont causé ont ravivé les tensions en fait entre les communautés du Nord. Et les héritières de ces milices, ben c'est un petit peu les groupes armés qui ont changé d'acronyme entre-temps et de sigle. C'est les groupes armés qu'on voit aujourd'hui occuper le Nord et qui se sont un petit peu autonomisés vis-à-vis de Bamako depuis qu'il y a eu le coup d'État le 22 mars.
Alors, 2012. Quand vous dites les groupes armés, c'est-à-dire vous faites allusion à quel groupe? Parce que c'est vrai que c'est, la situation est très très complexe.
Alors la situation est complexe. Un groupe comme Ansar Dine, par exemple, est dirigé par Iyad Arali. Iyad Arali a toujours eu un pied dans chaque bord. Il était reconnu comme une figure importante des communautés Touareg. Il a lui-même participé à des rébellions dans les années 90. Il a pris brièvement aussi le maquis en 2006, mais finalement, à chaque fois qu'il a participé à une action rebelle, c'était pour un peu lui couper l'herbe sous le pied et être le premier à montrer des signes de rapprochement avec les autorités bamakoises. Donc ça a été le cas en 90 et ça a été de nouveau le cas en 2006. Donc Iyad Arali a toujours joué un petit peu sur les deux tableaux, le tableau du ressentiment et de la rébellion au nord, et puis les connexions bamakoises. Et Iyad Arali a aussi donc profité de cette centralité-là pour être actif dans les négociations autour de la libération des otages pris par ACMI à partir de 2008 dans le Nord. Donc il est un petit peu partout, il joue un petit peu sur tous les tableaux, il a un carnet d'adresses bien garni, mais il n'appartient pas à la frange des rebelles irrédentistes. Il a toujours chercher à ménager d'une certaine manière les autorités bamakoises. Et aujourd'hui, il s'impose comme un leader qui n'est pas favorable au séparatisme prôné par le MNLA. Donc, Iyad Arali dispose d'une sorte d'héritage lié à son rôle et sa proximité avec le régime d'ATT au cours des années passées. Le Mujao, ce fameux groupe qui contrôle Gao aujourd'hui, qui est présenté comme un mouvement issu d'une sécession d'ACMI, a effectivement à voir avec ACMI au départ, mais la raison pour laquelle et la raison qui a permis qu'il s'installe aussi de manière aussi solide à Gao, c'est aussi que ces leaders ont noué des alliances avec des communautés arabes de la région de Gao. Et ces communautés arabes étaient déjà plus ou moins derrière la formation de la milice arabe, donc, que ATT avait utilisé pour lutter contre Bahanga à partir de 2006. D'accord. Et puis, bon, il y a un groupe qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, mais parce qu'il était un petit peu en dehors des activités de rébellion strictement Touareg jusqu'à présent, c'est ACMI. ACMI qui s'est installé dans le Nord Mali à partir de 2003, pardon, qui s'est impliqué assez rapidement dans le trafic de drogue en prélevant des dîmes sur les convois et qui a construit une industrie autour de la prise d'otages qui a gagné beaucoup d'argent par ce biais-là. Et cette industrie-là, ce business des otages, a aussi bénéficié des intermédiaires bamakois. Donc, bon, petit à petit, ACMI a tissé sa toile. S'est implanté d'abord du côté de Tombouctou et puis ensuite est un petit peu remonté vers le nord. Iyad Arali, qui était donc un rebelle Touareg à moitié entre Bamako et le nord et Kidal, a été impliqué dans les négociations autour de la libération des otages. Donc il a noué des contacts avec ACMI déjà depuis pas mal de temps, mais toujours en tant qu'intermédiaire, hein, en tant que courtier, sans jamais s'aligner nécessairement sur les positions d'ACMI. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque le MNLA a déclenché son action à partir de janvier 2012, il s'est retrouvé face à un front finalement de réseaux, de mouvements armés qui avaient déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Et notamment avec les autorités bamakoises, que ce soit autour de la question des trafics ou autour de la question de la libération des otages. Tous les acteurs islamistes que l'on voit émerger aujourd'hui avec des acronymes dont on n'avait pas forcément entendu parler avant sont quand même plus ou moins les héritiers de logiques politiques de contrôle qui étaient mises en œuvre sous le régime d'ATT. Et c'est ce qui explique finalement l'isolement actuel du MNLA. C'est-à-dire que le MNLA a commencé seul et a peut-être minimisé le pouvoir et le poids et l'influence que pouvaient avoir ces groupes armés qui étaient déjà plus ou moins constitués en fait au moment où il déclenchait son action, mais pas encore, qui s'était pas encore affirmé en tant que groupe autonome, qui faisait partie de cet ensemble, ce réseau un petit peu informel d'acteurs armés plus ou moins cooptés par le régime de Bamako.
Et justement, ces acteurs armés, qu'ils soient ACMI, Moujao ou Ansardine, quels sont leurs objectifs? Parce que, par exemple, quand on regarde Ansardine, si je ne me trompe pas, leur objectif, c'est, enfin, en tout cas extérieur, d'imposer la charia, mais il y a aussi l'enjeu, j'imagine, stratégique de qu'offre le nord du Mali. Au fond, ouais, voilà, quels sont les objectifs derrière?
Alors, il faut quand même être un petit peu honnête et dire qu'on ne sait pas grand-chose des agendas de tous ces acteurs-là, tout simplement parce que ils les cachent bien. Et quelqu'un comme Iyad Arali utilise d'ailleurs son silence comme une arme politique, parce que du coup, il peut toujours se distinguer d'une action qui a pu avoir lieu dans un territoire que son groupe contrôle, mais si jamais ça lui fait du tort au plan politique, il peut toujours dire que c'est pas lui qui l'a suscité et qu'il a rien à voir avec tout ça et que c'est d'autres qui l'ont fait. Donc le silence est une arme pour un homme comme Iyad Arali. Donc c'est quelqu'un qui est très très difficile à saisir et dont les intérêts et les objectifs sont très très difficiles à saisir. Bon, c'est peut-être l'acteur dont les intentions sont les plus obscures aujourd'hui. Encore une fois, parce qu'il est toujours sur plusieurs tableaux à la fois. Et là, par exemple, dans le cas des confrontations qui ont eu lieu à Gao ces derniers jours, donc qui ont débouché sur l'éviction de Gao du MNLA par le Mujao, Ansardine et Iyad Arali a essayé de jouer le rôle d'entremetteur. Bon, on ne sait pas finalement vers quel bord ça va pencher tout ça. Donc ça, c'est pour Ansardine. Mujao, ACMI, bon, là, l'agenda est un peu plus explicite. C'est un agenda djihadiste. Donc, la charia, c'est bien, mais finalement, il y a eu des déclarations, d'ailleurs, du grand chef d'ACMI dans ce sens, là, Abdelmalek Droukdel, il y a quelques semaines. La position de la charia, ACMI et les groupes associés, est d'accord pour sous-traiter ça à un groupe comme Ansardine. Ça relève des affaires internes du Nord Mali. L'objectif final d'ACMI, c'est quand même de conduire le djihad, c'est-à-dire de s'en prendre des intérêts occidentaux, non seulement au Nord Mali, mais aussi bien au-delà, dans tout le Mali pour commencer, et puis peut-être à l'extérieur, dans des pays comme le Niger. On sait que la jonction a été plus ou moins établie entre ACMI et un mouvement comme Boko Haram au nord Nigeria. Même s'il n'y a pas une coordination centralisée des activités, il y a des échanges, des transferts de compétences qui ont eu lieu entre les deux groupes. Bon, voilà, ACMI étend sa toile. Bon, je me méfie des interprétations et des analyses qui mettent en exergue l'idée d'un terrorisme transnational, parce que on reste quand même on est face à des groupes qui ont quand même beaucoup d'autonomie, qui ont des commandements décentralisés, mais bon, qui travaillent ensemble ponctuellement, et puis qui quand même petit à petit consolident leurs liens. Donc ACMI, Mujao, on peut assez aisément faire l'inventaire de leurs objectifs. C'est gagner en influence régionale et puis conduire des actions anti-occidentales. Et puis, à terme, peut-être imposer un califat conforme à leur interprétation de la charia. Mais finalement, ces groupes-là n'ont pas eu à gérer en tant que tels des des populations. C'est une nouveauté, par exemple, pour un groupe comme le Mujao, de devoir assurer la gouvernance d'une localité comme Gao. Et ils s'en sortent plutôt bien, mais ça n'a pas été un processus totalement linéaire non plus, puisque aux premières heures de l'occupation de Gao par les éléments islamistes, il y a eu énormément de tensions avec la population. Et ce n'est que récemment que le Mujao réussit à gagner les cœurs et les esprits, au moins partiellement, dans une ville comme Gao, et à retourner la population finalement contre le MNLA.
Par contre, dans une ville comme Tombouctou, là j'imagine qu'au niveau de la population, comment réagit la population, notamment là depuis le week-end dernier, il y a la destruction de mausolées par Ansardine. Comment la population réagit et est-ce qu'elle arrive, si je puis dire, à adhérer au groupe Ansardine?
C'est ça qui est assez étonnant à mon sens. Je n'ai pas de réponse parce que je ne dispose pas de témoignages directs sur le ressenti de la population depuis que les mosquées ou les mausolées ont été attaquées par Ansardine à Tombouctou. Donc je ne peux pas répondre totalement à votre question là, mais il est quand même très surprenant de voir tous les efforts qui sont faits par le Mujao pour gagner la sympathie des populations à Gao, tandis que dans le même temps, à Tombouctou, Ansardine fait des choses qui, a priori, n'améliorent pas son image aux yeux de la population. Bon, peut-être qu'il s'estime en position de force et se sentent inattaquables dans leur nouveau bastion de Tombouctou, donc peuvent se permettre des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que souhaiterait la population. Mais moi, j'ai l'impression que, en l'occurrence, le geste, l'action consistant à détruire que l'UNESCO avait décrété comme étant un patrimoine mondial de l'humanité en danger. Cette action-là était surtout guidée par des intentions de propagande à destination d'un public occidental. C'était une sorte de réponse, à mon avis, à ce qui a été perçu comme une provocation de la part de l'UNESCO. C'est, voilà, vous voulez nous dire ce qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité, et bien, voici notre réponse. Ça a été vu, à mon avis, comme la prise de position de l'UNESCO a été vue comme une sorte de dictat peut-être occidental à l'attention de. Enfin, qui mettaient en cause les croyances que eux défendent. Donc c'est bon, moi c'est comme ça que je l'interprète, comme un geste de propagande à l'intention du public occidental, sachant que des groupes comme Ansardine s'appuient, je pense, sur un ressentiment anti-occidental très très profond.
Dernière question, c'est peut-être une question boule de cristal, mais comment vous voyez la suite pour le Mali?
C'est une question boule de cristal, ok, mais
quelles issues ou quelles, comme on parle peut-être d'intervention au niveau de, de l'Afrique, enfin de la CDAO ou pas, enfin en même temps, voilà, comment on peut voir les choses?
Mais ça se joue à plein niveau. Ça se joue au niveau local, au niveau local, on peut se demander quel va être le sort du MNLA. Est-ce que le MNLA va reprendre des forces et essayer de reconquérir certaines positions qu'il a perdues au nord? Ça, c'est un des premiers questionnements et un des premiers facteurs des évolutions à venir. Il y a un deuxième niveau de questionnement qui a trait à ce qui se passe à Bamako, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un pouvoir qui va se reconstruire à Bamako. Pour l'instant, les interlocuteurs un petit peu dispersé, la junte n'a pas lâché le pouvoir, mais en même temps la junte est pas reconnue comme une entité légitime par les acteurs extérieurs. Et puis donc il y a le niveau diplomatique international, CDAO, Union africaine, Union européenne et Conseil de sécurité des Nations unies. Tous ces gens-là discutent énormément en ce moment pour savoir la marche à suivre. Je ne pense pas qu'il y aura dans de brefs délais une intervention armée. D'abord parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas tout à fait disposé à accepter une intervention de ce genre. Et que le Conseil de sécurité des Nations Unies discute de manière privilégiée avec l'Union africaine plutôt qu'avec la CDAO, où se trouvent les acteurs les plus va-t-en-guerre, on va dire. Donc toute cette agitation diplomatique autour de l'intervention armée va peut-être in fine déboucher sur une intervention militaire, mais il y a énormément d'obstacles encore à franchir pour ceux qui souhaiteraient une intervention rapide. Et un obstacle majeur qui est que, pour l'instant, à Bamako, personne n'a exprimé le désir d'une intervention armée. La junte à Bamako voudrait bien qu'on lui donne des moyens matériels pour reconquérir le Nord, mais elle ne veut surtout pas de présence de troupes étrangères sur le sol malien. Donc là, il y a quand même énormément de problèmes à résoudre avant qu'une intervention militaire ait lieu. Je pense que le scénario du pire et qui pourrait se dessiner si jamais les pays les plus va-t-en-guerre sont pas satisfaits des discussions à l'échelle diplomatique, ils pourraient être tentés d'utiliser des acteurs locaux comme ce qu'on appelle des milices de proxy, c'est-à-dire comme instrument leur permettant de faire avancer leur propre agenda local. Donc il y a ce fameux El Hadji Gamou que j'ai évoqué plus tôt, qui dirigeait une des milices pro-ATT à partir de 2006, 2007-2008, est actuellement au Niger et il a clairement exprimé le souhait d'être armé par qui veut bien lui donner des armes. Donc il y a pas mal d'acteurs qui sont encore à la périphérie du Nord. Il y a la milice Gandaizo, Peul et son rail, qui, elle aussi, voudrait bien des armes. Donc ces acteurs-là, qui ne sont pas encore des acteurs majeurs de l'équation nordiste, mais ils sont prêts à rentrer dans le jeu. Voilà, ces acteurs espèrent être armés. Et peut-être que des gens autour du Mali seraient tentés de les armer si jamais il n'y a pas de solution diplomatique consensuelle. Donc ça, ce serait vraiment le pire des scénarios parce que ça conduirait à une sorte de guerre tribale au Nord Mali.
Merci beaucoup Yvan Guichaoua, c'est vrai qu'on pourrait encore en parler et peut-être faire une émission sur ce sujet bien sûr à la rentrée. Merci, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université East Anglia en Angleterre et qu'on peut lire un ouvrage que vous avez dirigé, alors c'est en anglais, Understanding Collective Political Violence à l'édition Palgrave Macmillan. Alors forcément on n'a pas encore de sujet sur le Mali, les événements récents, mais en tout cas sur les mouvements rebelles au Niger. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci de m'avoir invité.